Bienvenue au balado sur la santé des troupeaux, un endroit pratique où vous pouvez vous tenir au courant au sujet de l'industrie laitière et des bovins de boucherie au Canada grâce à l'information communiquée par notre équipe de médecins vétérinaires de services techniques. Notre objectif est d'apporter aux producteurs et aux médecins vétérinaires des informations pertinentes sur les tendances, les pratiques de gestion et les données scientifiques qui peuvent être appliquées sur le terrain. Ce balado vous est proposé par l'équipe bovin de Boehringer Ingelheim Santé Animale, chef de file de l'industrie de la santé animale. Vous trouverez d'autres épisodes de ce balado sur Spotify, Apple Podcasts ou sur tout autre site de diffusion de balado. Merci encore de votre écoute. Bonjour et bienvenue au balado sur la santé des troupeaux. C'est notre deuxième épisode en français et aujourd'hui, on parle d'un sujet très pertinent sur les fermes laitières, le tarissement. Et ceci dans un contexte où les vaches produisent encore beaucoup de lait lorsqu'il est temps de les tarir. Autrefois, tarir une vache, ce n'était pas trop compliqué. Le vrai défi, c'était de réussir à les garder en production le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on a le problème inverse, où les vaches produisent énormément et ce n'est pas aussi facile de les tarir comme de fermer le robinet. Pour en discuter aujourd'hui, je suis avec Dr. Anne-Claire Briseville, vétérinaire et spécialiste technique ici chez Boehringer Ingelheim. Bonjour Anne-Claire, bienvenue et bien contente de t'accueillir de nouveau.
Bonjour Nathalie.
Pour commencer, pourrais-tu nous expliquer un peu pourquoi c'est moins facile de tarir nos vaches aujourd'hui?
Oui, en fait, on est victime de notre succès, in a way. Au cours des 10, 15, 20, 40 dernières années, l'amélioration de l'industrie laitière a fait en sorte qu'on a sélectionné de meilleures génétiques, on a alimenté nos vaches de mieux en mieux, on a amélioré nos performances de reproduction, ce qui fait que nos vaches sont plus productives. Elles restent aussi productives plus longtemps, ça c'est ce qu'on appelle la persistance. Et puis, on arrive à les mettre gestantes plus rapidement, ce qui fait que lorsqu'on est rendu à devoir les tarir parce que le prochain vélage s'en vient, ben, elles produisent encore une certaine quantité de lait. Puis quand je dis une certaine quantité de lait, la moyenne canadienne est entre 22 et 23 à peu près, mais il y a des vaches qui, juste avant d'être taries, produisent encore 35, 40, 45 kilos de lait. Donc ça fait en sorte que, rendu au moment où il est important d'arrêter cette lactation-là pour préparer la suivante, on a un souci de faire en sorte qu'elle se tarisse comme il faut.
OK, alors donc, oui. En effet, c'est surtout les vaches qui tarissent énormément de lait. Quels sont les défis de tarir ces vaches-là qui font encore tant de lait?
Mais le premier défi, c'est qu'on sait que en termes de confort, plus la vache va faire de lait au moment où on va vouloir la tarir, plus il y a de lait qui va s'accumuler. Le tarissement en tant que tel, c'est quelque chose que nous, humains, décidons dans le sens où on arrête de traire la vache. L'arrêt de la production laitière, par exemple, à l'échelle du pi, à l'échelle physiologique, elle, ça prend quelques jours, là, le temps que le système dise...
C'est assez.
Au cerveau. C'est assez, on arrête de produire du lait, puis on commence à faire le ménage, à réduire, à débuter ce qu'on appelle l'involution mammaire de façon à préparer la prochaine lactation. Donc, il y a un petit décalage, ce qui fait que pendant ce temps-là, le lait qui va être produit reste dans le pis, puis quand on produit beaucoup de lait, ben, ça peut faire beaucoup de lait qui reste dans le pis. Ça rend les animaux inconfortables, en fait, d'autant plus inconfortables qu'elles produisent beaucoup de lait. Puis ça a été documenté scientifiquement également. Il y a une première étude, il y a quelques années, qui a montré que pour chaque 5 kilos de production de lait au-delà de 12,5, les vaches passaient 20 minutes de moins de temps couchées. Donc ça a un impact direct sur le confort. L'autre impact qui est peut-être moins facile à percevoir naturellement, c'est un impact sur la santé du pied. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, à force d'observer ça depuis les 20 dernières années, donc nos vaches produisant de plus en plus de lait, il y a un intérêt qui s'est porté sur le tarissement, puisqu'on a observé, c'est que nos vaches qui produisaient plus de lait que les autres, donc ça, le plus de lait dépendait en fonction des études, ça pouvait être plus que 15 kilos, ça pouvait être plus que 21, mais ces vaches-là avaient plus de risques, plus de challenges en termes de santé du pis. Les trayons avaient deux fois moins de chances de se fermer au moment du tarissement. Donc, en fait, il y a comme un bouchon de kératine qui progressivement se forme au bout de chaque trayon. Puis, les vaches qui produisaient plus de lait que 21 kilos avait moitié moins de trayons fermés, si vous voulez. Puis ça fait plus de trayons qui, deux fois plus de trayons qui dégouttent de lait, mais aussi quatre fois plus de risque de mammite au moment de la lactation suivante, donc au début de la lactation suivante. Donc ça pose un certain nombre de challenges, d'enjeux à adresser.
OK, donc la pression du lait dans le pis résulte un peu à l'inconfort, puis le tout aussi dépend du bouchon aussi. Et donc, on a des défis là en ce moment-là aussi. J'imagine que les producteurs ont déjà des stratégies pour préparer leurs vaches au tarissement.
Tout à fait. C'est des choses qui se font... Pour la plupart des fermes laitières, chacun a en fait développé ses propres stratégies. C'est naturel de vouloir rendre cette transition dans la période de tarissement le plus confortable, le moins problématique possible. Donc, on a plusieurs façons. Il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place au fil du temps. Une des premières stratégies, ça va être de diminuer un petit peu l'alimentation vers la fin de la lactation au moment où on va vouloir les tarir dans les quelques prochains jours suivants. Donc, on va diminuer soit la quantité totale d'alimentation, soit la densité énergétique de cette alimentation. Donc, on va leur donner en fait une alimentation qui est un petit peu moins riche ou alors on va vouloir réduire la quantité de concentré, par exemple. Il y a plusieurs façons de faire, dépendamment si on est en stabulation libre, en stabulation attachée, en stabulation robotisée. Il faut ajuster avec ça. Une autre façon de faire, c'est de diminuer la fréquence de traite. Il y a en fait un certain nombre de rétro-contrôles au niveau du pied qui fait que quand le pied est plein, la production de lait ralentit. Et donc, espacer nos traites, passer de 3 fois par jour à 2 fois par jour ou de 2 fois par jour à 1 fois par jour, ou décider que la vache va se faire traire aux 19h ou aux 22h ou aux 26h, si on peut régler ça sur un robot, ça aussi, ça va faciliter la diminution de la production de lait juste avant le tarissement. Puis, l'effet d'additif, donc on peut ajouter ces deux stratégies-là, puis ça réduit d'autant plus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que toutes ces stratégies ne peuvent pas nécessairement se mettre en place au maximum de ce qu'on est capable dans toutes les fermes laitières, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, au Canada, ou tout au moins en 2021, je ne pense pas que ça ait changé beaucoup d'ici là, il y a à peu près 80% des vaches qui arrivaient dans les 7 jours précédant leur tarissement, produisaient encore plus que 15 kilos de lait. Puis 15 kilos... C'est le seuil qui, à l'heure actuelle, est recommandé par les experts en santé du pis, du National Mastitis Council, pour maximiser le confort des animaux et la santé du pis et la qualité du lait. Donc, ce serait un des objectifs à l'heure actuelle si on voulait se mettre un objectif de production laitière au moment où on va tarir nos vaches.
Mm-hmm. Est-ce que tu as un pourcentage des vaches qui produisent plus que le 15 kilos par jour?
Oui, par 80%, un peu plus de 80% des vaches canadiennes.
Wow, OK. Alors, on a un défi à ce moment-là. Justement, parlons de l'expérience de la vache au tarissement. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe pour elle pendant le tarissement même?
Au moment du tarissement, donc ce qui va se passer, c'est que nous, on va arrêter de traire l'animal. Il y a un certain nombre, donc le lait va continuer à être produit pendant quelques jours. En fait, ça prend 2-3 jours. Puis, le fait que le lait reste dans le pis, ça va envoyer des signaux à la physiologie de l'animal, que ce soit le cerveau ou le pis localement, qui va diminuer progressivement la production de lait. Et puis, il va y avoir le système immunitaire, après ça, qui va commencer à faire le ménage, donc va réabsorber, en fait, le lait va être réabsorbé, dégradé, détruit et cleané. C'est un peu le clean-up crew qui va passer par là. Puis ça va ce qu'on appelle l'involution mammaire. Donc, c'est une période où donc le lait va être réabsorbé, puis après ça, les cellules qui fabriquent le lait vont progressivement être renouvelées pendant cette période de tarissement, en fait, de période vache tarie qui se déroule entre la dernière traite et le vélage suivant. Okay. Et puis ça, on sait que c'est vraiment important pour le pis en tant que tel, parce que quand on saute cette période de tarissement, parce que des fois, il y a des bad luck, puis la vache vèle un petit peu trop d'avance, ou même on oublie de la tarir, on sait que la lactation suivante est fortement impactée, notamment en termes de qualité du lait et de quantité de lait également.
OK. Puis justement, avec les vaches qui produisent beaucoup plus de lait, au niveau du tarissement, ces jours-là sont inconfortables avec la pression dans le pis, etc. Donc, il y a des défis là, justement, pour la vache et pour le producteur aussi.
Exactement.
OK. Et puis, je comprends aussi maintenant pourquoi il est important d'avoir des stratégies en place et des outils afin de réduire la production au tarissement. Justement, ça, c'est un des sujets aujourd'hui pour notre balado, c'est que Boehringer a un nouvel outil qui s'appelle Bovicalc Dry. Et c'est là que Bovicalc Dry pourrait rentrer en jeu. Peux-tu nous expliquer c'est quoi Bovicalc Dry?
Bovicalc Dry, c'est un supplément minéral. Donc, c'est pas un médicament en tant que tel, c'est vraiment un supplément qui a été développé pour aider la vache à diminuer sa production de lait juste avant d'être tarie. Donc, c'est un outil de plus que les producteurs et les vétérinaires peuvent utiliser au même titre que les autres stratégies dont on s'est parlé. Donc, ça peut être en même temps ou si on n'est pas capable de faire les autres, par exemple. La façon dont ça fonctionne, Bovicalc Dry, ça se présente sous forme de bolus. C'est un bolus de minéral qui contient du chlorure de calcium, du sulfate de calcium, puis du chlorure d'ammonium. Puis la partie qui va nous intéresser, c'est la partie chlorure et sulfate. Ça, c'est des ions en fait qui sont chargés négativement. Puis quand ces ions-là sont absorbés dans le sang des animaux, ça va modifier une petite affaire le pH de façon à ce que les animaux aient un petit peu moins faim. On parle d'à peu près de 10 à 15% de réduction de consommation volontaire de matière sèche. Donc, même si on leur donne à manger à volonté, elles auront moins tendance à vouloir manger. Elles ont juste moins faim. Puis, si on a moins faim, ben, ça fait du sens qu'on va avoir moins d'énergie puis moins d'éléments pour faire du lait.
Mais oui.
La deuxième façon dont ça fonctionne, c'est que ce léger changement de pH, qui reste quand même complètement normal, là on est encore tout à fait dans les limites de la normale, va faire en sorte que les cellules du pie qui fabriquent le lait, quand une partie de leur job, c'est de prendre le sucre qui est dans le sang pour éventuellement le convertir en lactose, qui est le sucre du lait. Puis c'est la quantité synthétisée de lactose qui détermine le volume de lait qui est produit par le pie en général. Et donc, l'influence de ce changement de petits changements de pH fait en sorte ces cellules vont prendre moins de dextrose, donc moins de sucre. Donc, elles vont avoir moins de pièces de morceaux de Lego pour fabriquer leur lactose. Et puis, si elles fabriquent moins de lactose, elles fabriquent moins de volume. Donc, on joue sur ces deux tableaux pour faire en sorte que dans les 12 à 24 heures qui suivent l'administration du produit, la production de lait diminue d'à peu près 10% si on change rien d'autre, en fait. Donc, si on les alimente de la même façon, puis si on les traite de la même façon. Puis dans un contexte où on va utiliser ce produit-là proche du tarissement, donc soit au moment de la dernière traite, soit dans les heures précédentes, on va coupler ça avec toutes les autres choses qui vont se passer. Donc, on va faciliter l'arrêt de cette production de lait en même temps qu'on va arrêter de la traire.
D'accord. Et puis, comment est-ce que le produit est utilisé exactement sur la ferme? Comment est-ce qu'on l'administre?
Oui, très concrètement, donc je vous ai dit, c'est sous forme de bolus. Je pense que beaucoup de producteurs et de vétérinaires sont habitués avec cette formulation orale. Une des choses qui est assez différente de l'eau de Bovicalc, pour ceux qui connaissent l'eau de Bovicalc, c'est que c'est deux bolus en même temps. Donc, c'est une seule administration avant le tarissement ou alors lors de la dernière traite. Mais c'est les deux bolus qu'il faut donner bac à bac parce que les études montrent que si on en utilise juste un, ça marche pas. Donc, on donne l'un après l'autre ou il y a parfois des lance-capsules qui peuvent les donner, charger deux bolus puis les donner un avalé puis un autre pour manipuler un petit peu moins les animaux. Puis, on va administrer ces deux bolus-là donc au plus proche, soit au moment de la dernière traite, soit on peut le décaler un petit peu avant ça, donc à l'avant-dernière traite ou même un petit peu avant, dépendamment de la stratégie que vous avez avec votre vétérinaire, puisqu'on sait que l'impact maximal sur l'appétit, c'est à peu près à 24 heures, puis l'impact maximal sur la production de lait, c'est à peu près 48 heures. Puis après ça, ce qui est très intéressant, c'est que ce produit a un effet qui est très, très court, parce qu'on sait que rendu 4 jours plus tard, donc 4 jours après administration, il n'y a plus du tout de différence entre animaux traités puis animaux non traités en termes d'appétit, par exemple, ou de production laitière. Donc, c'est vraiment ça achète, en fait, du confort aux vaches pendant les 2-3 jours après le tarissement où c'est le moment où la pression dans le pied est le pire, la production de lait le temps qu'elle s'arrête et puis que l'involution mammaire commence.
Alors, Bovicalc Dry la soutenrait justement pour ces deux journées critiques-là.
Exactement.
OK, super. Et maintenant, on connaît déjà bien Bovicalc qui s'utilise au veillage sur les fermes. Quelle est la différence entre un bolus de Bovicalc et Le bolus de Bovicalc Dry.
Oui, juste pour être sûr que les gens ne confondent pas. Donc, Bovicalc, le bolus va être blanc. Toute la boîte va être noire et jaune. Puis ça, c'est vraiment un bolus au vélage, puis un autre bolus 12 à 24 heures plus tard. Bovicalc Dry, lui, s'utilise au tarissement. Donc, ils partagent un morceau du nom, mais c'est vraiment pas les mêmes animaux qu'on va traiter, pas au même moment, devrais-je dire. Et puis, c'est deux bolus à la fois, mais un seul traitement.
Et par rapport au Bovicalc, dont la boîte est noire et jaune, comme tu le mentionnais un peu plus tôt, la boîte de Bovicalc Dry est noire et rouge. Et dans le contenant individuel, le cylindre blanc, il y aurait aussi un rouge pour indiquer que c'est du Bovicalc Dry.
Les producteurs pourront se rendre compte, puis les vétérinaires, si vous l'ouvrez puis que vous l'utilisez, vous verrez que le bolus est un petit peu mauve également, mauve violacé par rapport au blanc de Bovicalc. Donc deux types de bolus, mais vraiment deux populations différentes.
Oh, super, super. Ça, c'est un outil très spécialisé. Et puis, pourrais-tu nous expliquer ce à quoi un producteur pourrait s'attendre lorsqu'il utilise Bovicalc Dry au tarissement?
Ce qu'un producteur va pouvoir observer, oui, en fait, c'est vraiment un outil supplémentaire. Donc, en utilisant Bovicalc Dry au tarissement, on peut pas s'attendre du jour au lendemain à ce qu'une vache qui fait 30 kilos de lait fasse plus rien du tout. Mais on va aller aider, diminuer un petit peu cette production de lait. Comme je vous ai dit, les études montrent 10%, mais l'expérience qu'a observé les gens va varier beaucoup suivant si vous faites d'autres choses en même temps. Donc, c'est sûr que si on change l'alimentation, la fréquence de traite et qu'on donne Bovicalc Dry, ces effets-là sont additifs. Donc, on va avoir une diminution de cette quantité de lait et probablement moins d'agitation. Ça, c'est une des choses que les producteurs rapportent dans le groupe de vaches taries. Ce que certains producteurs ont observé aussi, puis qui fait du sens avec moins d'accumulation de lait dans le pis, c'est des vaches qui coulent moins, qui dégoûtent moins de lait. Une vache qui dégoûte, c'est quand la pression dans le pis est plus grande que la force du sphincter du treillon. Donc c'est sûr que ça peut quand même arriver, mais il y a moins de chances qu'elle dégoûte. Et puis les autres choses à l'échelle individuelle que certains producteurs ont observé à la lactation suivante, en fait, c'est ces vaches qui partent mieux en lactation, c'est ce qui est rapporté. Puis aussi des comptages de cellules somatiques individuelles qui sont un petit peu moindres, un petit peu moins hauts. Donc ça, c'est intéressant pour l'animal. Puis des animaux qui restent mieux plus d'animaux qui restent dans le troupeau. Donc une meilleure longévité dans la lactation suivante. Okay, donc ça couple l'effet individuel puis l'effet à l'échelle du troupeau. Donc si tu gardes tes animaux plus longtemps dans le troupeau, a priori t'as moins un taux de réforme moindre et donc moins besoin de relève.
Wow, ok. Donc si je comprends bien, Bovicalc Dry, c'est un outil de plus pour intégrer dans le programme de gestion au moment du tarissement sur la ferme pour aider à réduire le lait et augmenter le confort de la vache sur la ferme.
Exactement. C'est vraiment un outil supplémentaire qui est à la disposition des producteurs et des vétérinaires pour le faire fitter dans leur stratégie de préparation du tarissement.
Mm-hmm. OK. Et puis, comment est-ce qu'on l'intègre dans le troupeau comme tel? Est-ce que c'est un produit pour certaines vaches ou pour toutes les vaches?
Alors ça va être variable de troupeau en troupeau, puis c'est là que j'encourage les gens à avoir cette discussion avec leur vétérinaire pour vraiment cibler qu'est-ce qu'il y a de mieux pour chez eux. Il y a plusieurs façons dont il a été utilisé au cours de la dernière année et demie qu'il a été lancé. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes, mais c'est des généralités. Donc, ça s'adapte en fonction de chaque cas particulier. Une première façon de faire, c'est de cibler nos vaches qu'on a de la misère à tarir. Donc, celles qui font encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait. Là. Je vous citais que certaines vaches arrivent à 7 jours du tarissement en faisant plus que 35 kilos. Puis, il y a des vaches qui sont tellement programmées à donner du lait que quoi que tu fasses, tu arrives difficilement à les faire baisser. Donc, ça pourrait être des bonnes candidates à l'essayer pour essayer de se maximiser cette diminution de la production de lait avant d'arrêter de la traire pour améliorer son confort et sa santé du pis par la suite. Donc, on pourrait cibler nos plus fortes productrices, si on veut, à l'échelle individuelle. Une autre façon de l'aborder, c'est qu'on a vu, et puis il y a quand même des supports scientifiques de ça qui font que ça améliore le confort quel que soit le niveau de production de lait. Et puis, ça améliore éventuellement la santé du pis par la suite. Donc, on peut se dire qu'on l'utilise pour toutes les vaches. Chacune des vaches ayant peut-être pas nécessairement le même bénéfice, le degré du bénéfice peut être plus ou moins important vache par vache, mais à l'échelle du troupeau, on est sûr de pas en manquer, puis on peut observer justement ces bénéfices qui sont plus à l'échelle du troupeau, donc en termes de santé du pied, puis de longévité dans le troupeau par la suite. Mais dans ces cas-là, on va le donner à tout le monde, puis on triera pas. Ça a un autre avantage qui est d'être super pratique, parce que t'as pas à te poser la question de qu'est-ce que cette vache-là produit. Pour les fermes où il y a plusieurs intervenants, on peut le mettre de routine à tous les animaux. Puis une troisième façon dont cet outil-là a été perçu par certains producteurs, c'est vraiment pour faciliter la routine de tarissement, faciliter le travail des gens qui travaillent avec les animaux à ce moment-là. Il y a une ferme notamment qui était très consciente qu'il fallait baisser la production de lait avant d'arrêter de traire les animaux. Puis ça leur prenait 5 à 6 jours d'arriver à baisser assez leurs animaux pour décider que ça y est, c'était assez, c'était leur dernière traite. Wow. De façon à ce qu'elles soient confortables, puis que ça se passe bien par la suite. Puis en utilisant ce produit-là, ils ont raccourci donc leur routine de tarissement qui était d'à peu près 5 jours, si je me rappelle bien, à 48 heures. Donc, c'est...
Quelle différence!
Oui, hein. Ils étaient capables d'arriver quasiment au même résultat peut-être, mais ça leur prenait 2,5 fois ce temps-là. Donc 2,5 fois plus de travail. C'était des animaux qui passaient dans la salle de traite juste une fois par jour. Donc c'était comme un groupe que tu manageais à part pendant plus de temps que ça. Donc dans cette ferme-là, le plus gros bénéfice que eux voient, c'est vraiment faciliter leur travail puis diminuer la charge de travail en fait. Donc je trouve que c'est un produit qui peut répondre à plusieurs challenges, genre plusieurs
défis.
Défis à l'échelle de la ferme. Puis donc les producteurs vont voir des intérêts qui peuvent être différents en fonction de leur réalité. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant d'en parler de votre cas particulier avec votre vétérinaire.
Oui, absolument, pour essayer de vraiment personnaliser au niveau de la ferme. Donc, c'est important parce qu'on ne voit pas seulement des bénéfices pour la vache, mais aussi pour le producteur comme tel et la ferme
au
complet.
Et le troupeau. Exactement.
C'est très intéressant de commencer à entendre des bonnes histoires comme ça, des effets positifs pour Bovicalc Dry. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ça fait maintenant un an que Bovicalc Dry est disponible, ou un peu plus qu'un an. Ça serait quoi les recommandations pour quelqu'un qui voudrait l'utiliser pour la première fois?
La première recommandation que je donnerais aux producteurs notamment, c'est de s'asseoir 15-20 minutes avec votre vétérinaire pour refaire le point sur comment ça se passe la routine de tarissement chez vous, parce que c'est quelque chose qu'on fait de façon très routinière, puis dont on prend pas nécessairement le temps à toutes les ans de réviser nos protocoles, puis réviser comment on fait. Donc voir est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on fait tout comme on voudrait le faire. Il y a des fois on n'a pas toujours le temps, et puis est-ce qu'on est capable de changer des petites choses pour améliorer la situation finale. Puis une fois qu'on a une bonne idée de comment ça se passe, c'est à ce moment-là qu'on va savoir est-ce que j'utilise ce produit-là pour certaines vaches? Est-ce que j'utilise ce produit-là pour toutes les vaches? Puis comment, à quel moment je vais le donner? Donc, ma première étape, ce serait vraiment de prendre un 15-20 minutes pour faire un plan de match avec votre vétérinaire. Et puis après ça, vous sélectionnez les animaux que vous allez vouloir, avec lesquels vous allez vouloir essayer. Puis donnez-vous quelques temps, là, quelques animaux pour l'essayer. Là, c'est sûr que si vous regardez ça juste sur une vache, c'est un petit peu court pour se faire une idée. Donc, l'essayer sur plusieurs animaux, puis voir l'intérêt que vous y voyez à l'échelle de votre troupeau.
Ça sont des bonnes suggestions. Merci beaucoup. OK. Alors, si on met ça tout en résumé, Bovicalc Dry, c'est un outil additionnel pour aider les producteurs à faciliter le tarissement. Bovicalc Dry est un supplément de minéraux par voie orale en bolus et le but, c'est de diminuer la production de lait pour faciliter le tarissement. C'est un seul traitement de 2 bolus en même temps et c'est un outil de plus dont l'effet s'additionne aux autres stratégies, comme par exemple le regroupement ou les changements alimentaires. Et puis Bovicalc Dry, il favorise le confort, le bien-être des vaches et soutient la santé du pie dans la lactation suivante. Ai-je tout compris?
Oui, c'est tout à fait ça. Je trouve que Bovical Dry s'inscrit bien dans l'idée que le tarissement, ça, c'est en fait la présaison de la lactation suivante. Donc, c'est pas juste un moment où la vache arrête de produire du lait puis une période de vacances pour elle. C'est vraiment sa présaison de hockey, son camp d'entraînement pour préparer la lactation suivante. Donc, c'est une façon de mettre plus de chances de son bord si on se rend compte qu'on en a besoin pour ces vaches-là ou pour ce troupeau-là.
Super, super. Bien, merci beaucoup, Anne-Claire, pour toutes ces informations pertinentes. Pour en savoir plus sur Bovicalc Dry, parlez à votre vétérinaire ou visitez bovicalcdry.ca. Merci à tous et toutes d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé ce balado, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire. À bientôt pour un prochain épisode. Vous avez écouté le balado sur la santé des troupeaux. Les informations communiquées dans ce balado ne remplacent pas les conseils d'un vétérinaire. Nous vous encourageons à contacter votre vétérinaire pour obtenir de plus amples renseignements sur les sujets abordés. Boehringer Ingelheim ne peut pas recommander l'utilisation des produits en dehors des recommandations de l'étiquette canadienne approuvée par Santé Canada. Vous trouverez d'autres épisodes de ce balado sur Spotify, Apple Podcasts ou tout autre site de diffusion de balado. Merci encore de votre écoute.